Pour cette 13e émission de La Poémière, Fernand Bellac et moi-même, Isabelle Prévost, accueillons Claude Robert, Rosemary Racine et René Curato. Bonjour Fernand.
Bonjour.
Bien. Bonjour Claude.
Bonjour.
Bonjour Rosemary.
Bonjour.
Et Rosemary vient de Suisse pour cette émission. Et Claude vient de la région parisienne. Bonjour René.
Bonjour.
Et René vient de pas très loin, mais on est très content de t'avoir aussi. Cette rencontre de ce mercredi soir a pour titre « En lisant, en écrivant ». Titre inspiré par le livre écrit par Julien Gracq et qui retrace la démarche de l'écrivain et du lecteur. Pourquoi ce titre ? Parce que ce livre de Julien Gracq m'a marqué, car il montre à quoi se rattache le lecteur lorsqu'il entreprend le voyage initiatique qui l'emmène vers un ailleurs et en même temps le ramène à une sorte de réalité fictive par le choix de descriptions d'objets qui raccrochent le lecteur à la réalité de la fiction. Par exemple, il vaut mieux donner un exemple parce que c'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Par exemple, le briquet en or massif ou la boîte d'allumettes seront un marqueur pour le lecteur, quelque chose qui va le raccrocher avec l'écriture et qui est tangible et qui rendra possible ce voyage avec l'écrivain, l'auteur, le poète ou le fabricant d'histoire. Alors la première question que je pose à chacun de vous ce soir, ce mercredi soir, c'est: la lecture, quelle place prend-elle dans votre vie et comment en est-elle venue à prendre cette place, Rosemary?
Ah, elle a une place essentielle, et ça depuis toujours, depuis mon enfance. Toute notre famille lisait énormément et je ne m'en suis pas départie du tout, au point que j'ai même dû par moments m'arrêter parce que je lisais trop, la fiction était plus importante que ma vie. Donc, j'ai mis un peu un halte là.
D'accord. Et Claude ?
Pour moi, c'est essentiel aussi, et cela remonte aussi à mon enfance. À 5 ans, ma mère m'a offert de grosses lettres de bois dont j'ai dit ailleurs que ça avait été mon plus beau terrain d'aventure, et ça le reste encore maintenant. C'est tout à fait essentiel, c'est vital, je dirais. Les mots, c'est vital aussi bien dans la lecture que dans l'écriture. Et il n'y a pas eu de... il y a eu une continuité depuis mon enfance jusqu'à maintenant, jusqu'à mes plaisirs de lecture et d'écriture d'adulte. Il n'y a jamais eu de brèche, il n'y a jamais eu de faille, et ce sont les mots qui ont été peut-être le fil conducteur de ma vie.
Merci Claude. Et maintenant, après cette réflexion de Rosemary et Claude, René, peux-tu nous dire donc quelle place prend la lecture dans ta vie ?
Je ne vais pas me singulariser beaucoup en disant aussi que la lecture, je suis tombé dedans petit. Avec mes sœurs, nous avions la chance d'habiter à côté de la bibliothèque municipale. Dans une période un petit peu difficile, c'était en Algérie, on ne pouvait pas beaucoup sortir ou autant qu'on aurait aimé le faire. Et donc on se rendait à la bibliothèque, je me souviens encore, avec un couffin. On allait chercher, on avait droit chacun, j'ai 5 sœurs, nous avions droit chacun à un roman par semaine, on se mettait d'accord sur le choix. Et dans mon souvenir, on arrivait à lire 4 ou 5 romans par semaine.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc j'ai, à cette époque-là, pendant 2 ans, 3 ans, j'ai énormément lu. Maintenant la lecture, je dirais, c'est un compagnon de tous les jours.
D'accord.
Je lis souvent le soir.
Mmh.
Et
d'accord.
Presque toujours de la poésie.
C'est une bonne nouvelle pour la poémière. Bien, Fernand, tu avais une question que tu voulais poser.
Parce que nous aimerions savoir si vous avez des auteurs que vous aimez, qui sont liés à votre profession, par exemple, ou à vos activités. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement séduit, intéressé, nourri ?
Puisque je fais du théâtre, évidemment, Racine, Molière, Shakespeare... Marivaux, mais j'ai travaillé beaucoup en poésie-théâtre, et donc par conséquent Lorca, Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, et beaucoup d'auteurs africains aussi en poésie. Amadou Lamine Sall, Tanela Boni font partie de mes répertoires.
Oui, pour moi, c'est une question qui me déroute un petit peu, parce que je ne me l'étais jamais posée en ces termes. Je n'ai pas vraiment de nom d'auteur lié à l'exercice de ma profession. J'étais enseignante. Mais peut-être un thème qui serait un fil conducteur, l'idée de la transmission, bien sûr, et c'est là le lien avec ma profession, mais je ne pense pas à un auteur particulier, sauf peut-être à Hugo, qui est effectivement pour moi peut-être l'écrivain idéal, peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure, parce qu'il y a à la fois l'écriture, mais aussi l'engagement de l'homme.
Oui, en ce qui me concerne, c'est un petit peu différent, parce que peut-être parce que j'ai eu beaucoup de plaisir en lisant au hasard, finalement, je n'ai pas de poète que je pourrais privilégier. Je dirais plutôt que des poètes, j'aime des poèmes. Et donc, je butine à droite, à gauche, et je fais des rencontres. Mais c'est vrai aussi bien dans la poésie espagnole que sud-américaine, qu'en Afrique aussi. Il y a vraiment, je crois, dans ce domaine-là, une façon de dire les choses qui est universelle.
Merci à tous les trois. Et quel thème vous aimez aborder dans vos poèmes et pourquoi ces thèmes-là ? Donc, Rosemary, Racine, d'ailleurs, tu nous as dit que tu aimais bien Racine, donc tu portes très bien ton nom. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Quels sont les thèmes que tu aimes aborder ?
Alors, il y a les thèmes plus émotifs et personnels, des célébrations aussi, de temps à autre, et surtout une relation au monde, exprimer un mal-être qui n'est pas forcément le mien, exprimer un lien avec le reste du monde. Pour moi, la poésie, c'est un prisme qui me permet d'accéder à plus grand que moi, à plus vaste que moi.
Et Claude ?
Oui, pour moi, ce n'est pas tant dans la démarche. J'écris dans des moments forts de ma vie personnelle et de la vie collective, de la vie de la cité. Mais je me suis aperçue après coup qu'effectivement, il y avait des thèmes récurrents dans ce que j'écrivais. Le thème de la souffrance, le thème de l'indifférence, qui peuvent être à la fois individuels et collectifs.
Merci Claude. Et René, alors quel est le thème que tu aimes aborder ?
Souvent, pour pas dire toujours, sous le coup d'une émotion. Mm-hmm. Ça peut être une émotion profonde, ça peut être quelque chose que j'ai entendu à la radio, que j'ai vu à la télévision, que j'ai appris en parlant avec un voisin. Ça peut être aussi, je sais pas, un ciel étoilé l'été ou la pluie d'automne.
D'accord.
Et j'écris en deux temps. J'écris d'abord sous le coup de l'émotion. Je laisse décanter. Et parfois, deux semaines, trois semaines après, j'ai envie d'écrire à nouveau en reprenant ce premier jet. Et c'est à ce moment-là que je travaille, entre guillemets, réellement ma façon de dire les choses.
Merci, René.
Eh bien, maintenant, je suis impatient de vous entendre. J'espère que vous allez nous illustrer tous ces propos avec des textes que vous avez écrits. Par exemple, Rosemary, tu aurais quelque chose à nous proposer aujourd'hui ?
Là, c'est tiré du journal de Gorée. J'aimerais juste préciser que j'ai eu la chance d'assister au festival de poésie à Dakar en 2003 et que Amadou Lamine Sall, qui en est le directeur et l'âme, a demandé aux participants d'écrire de temps à autre quelques textes. Et jusque-là, je n'écrivais pas vraiment de la poésie. Je trouvais que c'était trop important, trop grand pour moi. Et à partir de là, je me suis mise à écrire et j'ai commencé un journal de Gorée qui a suivi avec un vent du sud. Et d'autres choses suivent. Et là, j'étais inspirée par l'île qui m'a beaucoup marquée en différents points et par ses habitants. Et donc c'est une page que je tire de ce journal de Gorée. Là, tout au bout de l'île, la jeune fille chantait, le tenant des sirènes aux crinières écumantes étalées sur les rochers. Redis, redis-le-moi, petit joueur de cora, ce rêve, ce secret qui chante à mon oreille, vibre, vibre la corde en moi, elle résonne au son de tes paroles. Incrédule, mais créante, pourtant, je suis ardente. Il faut qu'encore tu chantes pour que je m'envole. Bien sûr, je n'y crois pas, mais joueur de cora, dis, redis-le-moi. J'entends gémir le vent de moiteur, de langueur, de Sahara fertile, de battement de cils. D'une douceur extrême, ton air ainsi joué en plein cœur m'a touchée. Trace, Mémoire inversée, ceux qui ont infligé la souffrance deviennent les héros, mais ceux qui ont crié sont réduits au silence. Ma couleur appartient à ceux qui vous ont vendu, mais mon passé, mon âme, à ceux qui ont été asservis. En vous, je me suis reconnue. De vos blessures, mon sang a coulé. Blanche est ma peau, nègre est mon sang. Elle pensait encore, je n'habite plus l'image nouvelle de moi, elle n'est pas celle que je vois. Elle est autre, la cruelle lumière découpe au laser les formes d'une autre.
Oui, alors tout à l'heure, René nous a dit qu'on écrivait souvent sous le coup d'une émotion, et j'adhère tout à fait à cette idée. Et ici, j'ai eu envie de vous lire un poème qui a été écrit sous le coup d'une émotion très forte. J'étais encore assez jeune et j'ai appris la séparation d'amis qui m'étaient très chers et j'avais du mal à réaliser. J'ai exprimé ma souffrance à cette annonce dans des mots. Le tissu se déchire et c'est déjà fini. Fragilisé déjà depuis bien des années, il a craqué ce soir par le vent de tempête. Mort, défaite de l'amour, échec monstrueux de la tendresse vive, choc jamais réparé d'un cœur à mort navré, triste écartèlement de douces espérances. Vide, vide écœurant de nuit sans lune, la vie dans ce qu'elle a de plus sec et trivial, a triomphé ce soir de l'infinie tendresse, en portant un coup noir et lâche, misérable.
Merci, maintenant nous t'écoutons.
Mère, aurore de reflets irisés à l'infini. Pleurs salés des golfes clairs, mer bleue méditerranée, roule la plainte des rochers éclatants, gerbe blanche des boissons marines. Mère, miroir du couchant, sourire fané de la brise sur les vagues, sur le sable gît la brisante tombée.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes à La Poémière sur CFM. On continue donc l'émission. Je voudrais maintenant poser la question à Claude sur comment tu écris, quelles inspirations tu as. Et il y a une chose qui est frappante, c'est l'appel de l'écriture qui provient pour toi de cette réaction à un événement précis et qui nécessite de façon assez urgente pour toi, Claude, l'action d'écrire, de l'écriture. Donc tu as écrit un poème suite à un appel à texte. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît ?
Oui, alors je crois que c'est une de mes plus belles expériences d'écriture, non pas tant par le texte que j'ai écrit, qui ne sera d'ailleurs pas ce que je vous lirai à la suite, mais par la force de cette écriture dans un recueil collectif. Alors je précise le contexte, c'était dans un contexte assez bouleversant pour le monde, puisqu'il s'agissait dans le moment où les États-Unis ont envahi l'Irak, du fameux incendie de la bibliothèque de Bagdad, qui avait absolument bouleversé le monde entier. Et à cette occasion, un poète mauricien que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Cal Torabulli, avait fait un appel à texte grâce à la magie d'Internet, qui permet parfois de favoriser l'écriture poétique. Il avait contacté un petit peu dans le monde entier grâce à la directrice de collection aux éditions L'Harmattan de la collection Poètes des Cinq Continents, qui lui avait tout de suite donné carte blanche pour cette entreprise. Il avait contacté un grand nombre d'écrivains qu'il connaissait et notre amie Rosemary Racine avait reçu par l'intermédiaire de Tanella Boni, qui est un écrivain de Côte d'Ivoire, avait reçu cet appel à texte qu'elle m'avait transmis aussi. Oui. Et nous avons pu publier à cette occasion des textes, chacun réagissant D'une manière très différente, c'est ça qui était magnifique, c'est que tous les textes étaient très différents les uns des autres, ils utilisaient des formes d'écriture extrêmement variées, et ça a été vraiment, je crois, ma plus belle expérience, le jour où je suis allée chercher à l'Harmattan ce recueil, « La cendre des mots », qui était aussi un très beau titre choisi par Cal Torabulli. Ça a été très très fort pour moi de me voir parmi ces poètes des cinq continents. Et c'est peut-être une des expériences qui a été la plus significative par rapport à ce que je recherche beaucoup dans mes activités de lecture autant que d'écriture, l'engagement de l'écrivain. Et j'ai envie de vous lire, non pas le texte que j'avais écrit à ce moment-là, mais un texte de mon ami Gilles Sicard, qui est un poète de votre région, et qui montre bien ce qui me tient beaucoup à cœur, dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir à la fois émotion personnelle et puis ouverture au monde, regard sur le monde, émotion collective. Et je lirai à la suite un très court poème de Georges-Emmanuel Clancier dans un recueil qui s'appelle « Contre-champ » qui fait allusion au drame de d'Oradour-sur-Glane. Voilà, donc je lis d'abord le poème de Gilles Sicard qui s'appelle « Hiver ».
Merci.
Sur la toile grise du jour, je pose, sortie de quel matin, de quel premier été, la senteur du sainfoin, le ciel de la colline, auréole des blés, le frôlement de l'hirondelle, la goutte de la figue prête, le poussin rescapé des buses, la ride plus douce au front de ma mère, le silence après le chabreau, lente action de grâce. Soudain ce titre du journal, ce cri, le monde maintenant, sur la toile noire du jour, l'homme profané, de Georges-Emmanuel Clancier. Ferme grise aux rives des châtaigneraies, l'exacte paix dans les feuilles, chaud de pénombre, appel du troupeau, psalmodie d'une voix paysanne, et couleur d'infini, la promesse dans les yeux de l'enfant. Bel été. Soudain flambent les oradours.
Nous te remercions beaucoup, Claude. Et maintenant, on va parler avec toi, Rosemary. Tu as écrit sur le sommeil. Et je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je m'intéresse au sommeil, aux taupes, au fait de dormir, de ne pas dormir, de ne pas arriver à dormir.
C'est l'hiver.
Ah, c'est pour ça. Donc j'hiberne, mais en même temps, je sors de mon trou pour faire une émission donc avec vous, mais c'est bien. Donc, Rosemary, tu veux nous expliquer un peu les circonstances qui t'ont amené à écrire ces poèmes liés au sommeil. Et puis, je ne sais pas si tu veux, on les lit d'abord et ensuite tu nous parles.
Oui, un concerne le vent, donc tiré toujours de vent du sud, et mon enfance. Et vous comprendrez par rapport au poème pourquoi, ou peut-être le faune, c'est un vent suisse qui est terrible et qui me maltraitait, qui me maltraite toujours, mais moins, quand j'y suis. Et un autre qui concerne Joël, la plage de Joël, où j'ai appris que des requins allaient dormir sur la plage, enfouis dans le sable. Et j'étais très, très émue ce jour-là. Donc, au nord des Alpes, tiré de vent du sud. Vent d'enfance que je croyais venu du sud. Tu étais celui qui me maltraitait, celui qui, impitoyable, enserrait de ses étaux brûlants les fragiles os de mon crâne, broyant dans ses fers ma pensée. Ma tête était à l'heure douleur sans trêve, frappée à l'intérieur par les marteaux piqueurs. Tu cognais trop fort, réduite à ta merci, suppliciée, torturée, geignante, condamnée à demeurer gisante sous cette douleur, douleur, douleur martelante. Étendue, rendue, je naviguais en pleine houle. Comment ne pas surfer sur ces vagues déchaînées, l'estomac retourné, ah, morsure de mon enfance. C'est ainsi que tu soumettais ceux qui te résistaient. Je ne cherchais pas à te connaître, j'attendais que tu t'en ailles. Le sommeil seul, quant à moi il parvenait, pouvait m'arracher à toi, quand perdu dans les ténèbres, tapis, inerte, je jouais à la morte. Je me laissais emporter, je devenais inaccessible. Le lendemain, le plus souvent, j'étais ressuscitée, terne, grise, méfiante au réveil. Je découvrais, merveille, que tu t'en étais allée. À la fête alors, renouveau dans mon corps, vent cruel que je croyais du sud, faune, tu t'appelles. Désormais sous ces latitudes, je ne t'appartiens plus.
Maintenant, je vais lire ton poème, Rosemary, qui s'appelle Marée. Marée. Plage de sable fin vendue sur prospectus, aux touristes avides de larges horizons, vous étiez le lit favori de ceux qui avaient trop nagé. Enveloppé dans les puissantes vagues des grandes marées, vous vous laissiez emporter et poser sur les myriades de cristaux ardents et humides, et, tandis que les eaux de la rive peu à peu s'éloignaient, douillettement enfoncées dans ces vases molles et tièdes, en profitiez jusqu'au retour de l'onde pour reposer chaudement et rêver votre soûl. À quoi donc pouvez-vous bien rêver? Vous, les requins dormeurs, des plages d'émeraude de Joal. Bien, Rosemary, tu veux nous expliquer un peu ce qui t'a amené à parler du sommeil dans ta poésie?
Eh bien, je crois qu'il est aussi important que l'écriture et que la lecture surtout. À la fois, il me reconnecte beaucoup plus profondément avec moi-même. Il me permet de fuir les ennemis comme les vents qui me tarabustent. Et il régénère. Donc, oui, il est vraiment important. Les rêves sont aussi terriblement importants. Voilà, ce sont deux mondes qui sont quelquefois parallèles, mais qui le plus souvent s'en mêlent.
Merci beaucoup, Rosemary.
René, à la lecture de tes poèmes, on a senti tout à l'heure l'influence de la mer, de l'océan, peut-être de l'Espagne. Ton nom nous dit quelque chose dans ce sens. Pourquoi ces deux influences, finalement?
J'ai eu la chance de naître et de vivre jusqu'à l'âge de 16 ans, à 300 mètres de la Méditerranée. Et je crois que, je ne sais plus qui a dit quelque chose qui me semble très vrai, à savoir que tout homme est le fils de son enfance. Voilà, et j'ai avec la Méditerranée un lien très très fort. Donc là, même maintenant où je ne vais plus sur les bords de la Méditerranée, je dirais par choix, parce que je n'y retrouve pas ce que j'ai perdu, je reste très 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 attaché à ces expériences qui m'ont formé finalement. Alors c'est vrai, la mer, oui, l'océan, oui, le ciel, oui, l'Espagne parce que c'est aussi la Méditerranée. Hein? Donc je n'ai pas de racines directement espagnoles, non, j'ai plutôt des racines napolitaines et maltaises, voilà, italiennes plutôt qu'espagnoles. Mais j'ai avec l'Espagne aussi un lien très très fort parce que j'ai découvert ce pays, sa langue, sa culture. Dans une autre vie, j'ai été professeur d'espagnol. Et donc, il y a des expériences là aussi qui sont très formatrices. Voilà.
Si tu veux nous lire deux de tes poèmes.
Je n'ai pas prévu de lire de mes poèmes.
D'accord.
Je préférerais lire d'autres poèmes. Bien. Par exemple, ici, toujours lié au sud, je pourrais lire un poème de Rosemary qui s'intitule Nomade.
D'accord.
C'est le vent du Sahara qui vient me parler de toi, qui disperse mes idées, qui emporte mes pensées comme fleurs desséchées, comme feuilles arrachées, qui soulève mon âme en tourbillonnante flamme. C'est le vent chaud qui s'en vient marquer au sable rouge. Chaque parcelle ainsi touchée, ô toi, écoute bien. C'est ce vent brûlant qui fait sien le chant des arbres décoiffés, le frisson sur la peau mouillée, le cri d'une extase étouffée. De Claude. Un voile épais et lourd tombe sur une nuit déjà noire. Comment rendre la clarté au monde? Comment apaiser tous les douloureux? Je suis fatigué. Ma lassitude s'étire en larges bandes plombées. Leur dire qu'ils sont beaux, ils ne me croiront pas. Leur dire qu'on les aime, ils ne me croiront pas. Leur dire que même quand tout va mal, il reste encore l'espoir, ils ne me croiront pas. Ils préféreront croire ceux qui leur prédisent des lendemains pourris, ceux qui les entraînent sur les chemins du mal et de la désespérance, sur un chemin de croix lamentable et vide de sens, vide d'espoir, vide au secours.
Pourquoi avoir fait le choix de la poésie libre, les uns et les autres, et non pas celui de, ben, des classiques, des formes classiques d'écriture, avec alexandrin, avec décasyllabes, hein, les grandes formes bien classiques? Je vois que vous n'utilisez pas ces, ni les uns ni les autres. C'est un choix là aussi, ou est-ce que c'est une difficulté que vous ne voulez pas vous collecter avec ces... Voyons par exemple toi.
Je suis débutante quant à moi, donc, dans la plupart des cas, j'essaye de faire correspondre une espèce de métrique intérieure à l'émotion que je veux transcrire.
Oui.
Et c'est comme ça que j'arrive le mieux à écrire, mais j'arrive progressivement maintenant à m'imposer des difficultés plus grandes quand même.
Oui.
Mais ce rythme intérieur est une grande contrainte quand même. Et il suit l'émotion que je veux, ou l'émotion que j'aimerais dépeindre, que j'aimerais transmettre surtout. En plus du mot, puisque le poème, c'est une oralité, c'est un rythme intérieur, il a une musique en soi.
D'accord. Et tu as essayé de t'imposer des formes complètement... Tu l'as joué ce jeu ou pas?
Là, je suis en train de le faire pour ça, mais par exemple, j'ai essayé d'utiliser justement... Dans la cendre des mots, le côté interjection, un côté justement provocateur. Donc, il était question que je lise peut-être un poème pour illustrer cette histoire.
Oui, voyons.
Et dans la cendre des mots, j'ai pensé à Ray Bradbury et à Fahrenheit 451. Mmh. Et qui mieux qu'un Américain pouvait-on dédier à ce moment-là un texte. Donc ce texte est dédié à Ray Bradbury. Et voilà. Bombarder une cité, dit Ray. Une cité populeuse, c'est une énormité, n'est-ce pas, Ray? Tuer ses habitants, oh, pour les libérer. Évincer le tyran, jadis un grand ami. Qu'est-ce, Ray? Et pour comble de tout, à ces actes héroïques, flotter, drapeau, flotter, s'ajoute ce nouveau fait, ou plutôt ce méfait. Écoute bien ici, Ray. À quelle température faut-il donc monter pour brûler le papier? À quelle température, Ray? Champion de liberté, tu l'avais dénoncé, 451 degrés Fahrenheit. Ray, c'est au moins ce qu'il faut au livre pour brûler la mémoire de Bagdad, qui est la nôtre aussi. Ah, les mille et une nuits, le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, traces et signes millénaires à jamais calcinés, enfumés, envolés. Fahrenheit 451, Ray. Tu l'as dit en son ton. Bombarder, torturer, c'est une ignominie, mais un auto-da-fé, Fahrenheit 451, c'est au monde proclamé. Allons, servons-nous, jamais vous n'avez existé. Fahrenheit 451. Ray, le pétrole a été épargné. À quelle température leur cerveau a-t-il brûlé à ces nouveaux élus? Ray, Fahrenheit, Celsius ou centigrade, qu'importe la mesure. La mémoire de Bagdad, cela que tu craignais, vient donc de s'accomplir. Ray, ils s'étaient appelés les grands libérateurs. Les Indiens, eux aussi, pourraient nous en parler. L'acte se perpétue. Ray. Flottez, drapeau, flottez, le pétrole est sauvé, l'amnésie proclamée, la voix du Dieu l'a dit devant toutes les étoiles, celles qu'on voit le jour. Il faudra s'incliner. Fahrenheit 451. Ainsi reprend l'histoire. Répétez, Muhammad, il était une fois à Bagdad. Regardez les étoiles, un ami, un tyran, dénommé Ham.
Bien. Et toi, Claude, cette histoire de forme, comment tu la prends, comment tu l'appréhendes?
Eh bien, la forme, je crois que pour moi, elle vient spontanément suivre le flux de l'émotion. Je ne me demande jamais comment je vais travailler la forme d'un poème indépendamment de l'émotion ressentie et de ce que j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que rarement, cela peut m'arriver, mais rarement je prends des formes classiques pour exprimer ce que je veux transmettre. Donc j'ai choisi de lire un poème que j'avais écrit lors d'une des toutes premières soirées poésie qu'on avait pu organiser avec Isabelle il y a bien longtemps. Et nous avions donné à ce moment-là le thème de l'espoir. C'était justement en 2004, ça suivait de 2003 et ces événements tragiques. Ce n'était peut-être pas tout à fait anodin. Et précisément, ce poème-là suit le flux de mon émotion, de ma révolte, mais aussi de mon optimisme, parce que j'ai peut-être envie quand même de croire en l'homme et en son humanité. Hoffnung, hope, spes, espoir, espérance, hamal, esperanza, hope, elpis, nadeye. Affaire, guerre, attentat, argent roi, consommation outrancière, nature saccagée, justice bafouée, hommes humiliés, morts de faim, de froid, de solitude. Hypocrisie de certains dirigeants, liberté d'expression assassinée. Nous avons construit un monde qui donne souvent à désespérer. Mais George Steiner nous dit « Le désespoir, vous le savez, est un péché capital. Où puiser alors l'espoir ? Dans ma résistance, dans ton sourire, dans son désir, dans notre amour, dans vos poèmes, dans leur sérénité, dans ma ténacité, dans ta main tendue, dans sa parole apaisante, dans notre solidarité, dans votre présence, dans leur lumière. Hoffnung, hope, spes, espoir, espérance, hamal, esperanza, hope, elpis, nadeye.
Bravo, magnifique. Eh bien, c'est à toi, René, alors, finalement, répondre à ces questions.
De répondre à quelles questions ?
Faut-il une forme ?
Adolescent, je ne concevais pas la poésie sans forme. Et je m'y suis essayé. J'ai très vite compris que ça ne serait pas mon moyen d'expression. Parce que... quand on a 15 ans, on a tous les rêves. On écrit donc de grandes et belles choses, et puis on lit ou on relit déjà Hugo, dont tu parlais tout à l'heure, Claude, ou Rimbaud, ou Baudelaire, ou Verlaine. Et tout d'un coup, on se dit non, ce que j'ai écrit, il faut que ça disparaisse. Peut-être pas forcément par le feu, mais c'est presque ce qui se passe. J'ai découvert le plaisir, le vrai plaisir de la poésie spontanée par hasard, chez un bouquiniste. On dira jamais assez de bien des bouquinistes. En ouvrant les œuvres complètes d'un auteur dont je connaissais le nom, que je n'avais jamais lu par préjugé surtout. C'était les œuvres complètes de Paul Claudel. J'ouvre donc au hasard et je tombe sur des haïkus. Déjà, je suis très surpris, j'ignorais tout de Claudel. Je ne savais pas qu'il avait été consul au Japon et qu'il avait de cette civilisation une connaissance que je n'avais pas moi. Et donc, je regarde ça et je tombe sur, je dirais, la phrase qui m'a ouvert à la poésie. Claudel a écrit « Dans le port, le cri jaune du remorqueur ». Et pour moi, tout d'un coup, il m'a semblé que un remorqueur, ça ne pouvait avoir qu'un cri jaune, que c'était une évidence. Voilà. Et c'est comme ça que, soudain, j'ai eu envie d'écrire en dehors de toute forme.
Merci beaucoup René Curato, Rosemarie Racine et Claude Robert. Vous êtes toujours sur CFM La Poémière et maintenant nous vous demandons à chacun de vous, poète, poétesse, de réagir à l'écriture des deux poètes qui sont avec vous d'une manière simple. Voilà, on change un peu les choses aujourd'hui sur CFM, sur La Poémière. On n'a pas envie de faire comme d'habitude, de vous séparer, de vous cloisonner. Alors débrouillez-vous. À toi, Rosemarie.
Premier round.
Alors, quant à la forme des poèmes de Claude, j'en aime beaucoup, beaucoup la simplicité et l'efficacité extrême, avec une maîtrise de moyens et une économie de moyens et une précision verbale. Là-dessus, je vais vous lire deux de ces poèmes, et ensuite nous passerons à deux autres poèmes de René qui sont des fresques magistrales. Poème de Claude. Des confettis roses sur un trottoir gris, des larmes de pierre dans une allée verte, des feuilles tombées et déjà jaunies, un silence d'or, une rue déserte, de hauts murs d'angoisse qui cernent mes yeux, questions sans réponse, à jamais posées, passant sans visage, passante fantôme. Où poser ma main que tu ne tiens plus? Et deuxième texte de Claude, une île. Une île peut très bien s'habituer à être déserte, à ne plus se demander pourquoi les autres sont habités, à guetter sans espoir l'arrivée du marin, elle peut même comprendre. Et quand tout est consommé, elle peut finalement s'enfoncer dans la mer tout doucement, sans bruit ni remous, et rejoindre le fond. Personne, jamais personne ne s'apercevra de sa disparition. Et quant au poème de René, alors déjà ils sont écrits presque en calligramme, ou même certains véritablement en calligramme. Et il a des proportions, ses poèmes ont des proportions qui sont mythiques, mythologiques, et ce sont d'énormes fresques qui nous relient au cosmique sur une toute petite page A4. Là aussi une précision, un choix de vocabulaire qui est sonore, significative, très visuelle aussi, tactile quasiment. Au début était le corbeau, ocre et noir, terre d'ombre et de nuit. Le corbeau primordial enserre dans le nid de ses ailes le monde en gestation. Géniteur de l'œuf originel, il embrasse et la terre, et la mer, et le ciel. Œuf de jade, le corbeau essentiel, pierre de jais. Ocre et noir, terre d'ombre et de nuit, créateur des tribus premières, Huron, Delaware, Mohican ou vrai vipère, il pose, passeur d'éternité, un regard acéré sur l'immensité. Œuf de jade, le corbeau poignard, pierre de jais. Ocre et noir, terre d'ombre et de nuit, reflet bleu, reflet vert de Montréal à Vancouver, corbeau corsaire de l'océan Atlantique au Pacifique, maraudeur erratique, sombre voilier par la plaine océane, Manitoba, Saskatchewan, œuf de jade, le corbeau totem, pierre de jais. Thank you.
Maintenant, je vais lire des poèmes de Rosemary. Ma longue amitié avec Rosemary passe par un amour de l'Afrique, des hommes africains, de la musique africaine, de la poésie africaine. Et j'ai été enchantée de lire ce recueil de Rosemary, ce journal de Gorée, ces vents du Sud qui font un lien entre elle et moi. À Gorée, la nuit, les esprits opaques bousculent les rêves, s'infiltrent dans les êtres, secoussent, éveillent, sueur, peur. Qui donc est passé, paupières collées, yeux embués, ne distingue rien. Sous les rochers encore vous mourrez, vous les rejetez, les méprisez, les humiliez, les torturez, les assassinez. Dans votre chair à jamais incrustée, la profonde blessure à forme de croix. Prométhée sous-marin, chaque nuit vous vous tordez et remontez hurler aux humains l'infâme dessein qui vous a cloué là. Vos cris, ailleurs aussi, je les ai entendus. La voix de mes ancêtres a gémi sous la croix. Mémoire nécessaire, vous revivez en moi votre atroce calvaire pour vous en aller, en d'autres contrées, des vivants ignorés, où vous vêtirez vos corps de lumière. À Gorée, la mémoire s'est faite chère.
Tout à l'heure, nous disions que un déclencheur d'écriture pouvait être une émotion forte. Et je crois que j'ai là deux poèmes, un de Claude, le premier par lequel je vais commencer, et un de Rosemary ensuite, qui me paraissent répondre tout à fait à cette observation. Voici donc de Claude. « Des jours sans soleil et des nuits sans lune, des arbres effeuillés, des nuages sombres, des crânes rasés et ensanglantés, des mains décharnées, des corps ravagés, des yeux aveuglés. Un amour sans toi, sans cette tendresse que tu as eu tort de me faire goûter pour me l'enlever sitôt accordée. » De Rosemary, Tohu Bohu, Paradis perdu. Vent de courants différents, vent du nord ou du sud, brise, vents alizés, rafales emmêlées qui de mon propre sol tourbillonnante s'élèvent, vire et volte ma pauvre âme, s'entrechoquent rêves et raisons, lambeaux de chair, morceaux de cœur, arrachés, éjectés, projetés par les typhons. C'est le feu attisé par mon souffle, par l'ardoiement des désirs, brûlant tison de l'inaccompli qui génère bouleversement, chaos. Mais comment? Comment respirer autrement, apaisé, sans toi, avec toi, cette inextinguible envie de toi?
De René, Médouelle. Le vent âpre des grands monts au front bas déverse dans le lointain blême un tourbillon grondant de démons grimaçants, exilés de tympans de cathédrales. Sur le ciel ardoisé scintille, lugubre étoile, un corbeau en croix. Et l'hiver, implacable de battre le tambour funèbre des regrets enfouis dans le caos désolé de l'oubli. Ah, aujourd'hui encore, quand au petit matin, il me souvient, qu'en sentant lancinant rouler l'écho d'antan, le cœur me dole.
De Cai a Sevilla, cuántos limoncitos. El limonar me conoce por los suspiros. Ay, muchacha, ay, qué buen caminito, ay, cuidadito con ella, ay, cuidadito con ella, qué buena moza, moza y doncella, qué buena moza, moza y doncella. Clara, cuando va a misa, ahí se pone el tamayo. Con un librito en la mano, ahí pidiendo.
Tu les lis, et tu vois, tu les lis, oui. On les enregistre. Oui.
On verra.
Et après, on fera les rééquilibrages.
Voilà un second poème de Rosemary qui est extrait de Vent du Sud qui s'appelle In Vivo. Souvent je m'arrête, étends mes bras en croix, vous suppliant d'une prière muette. Vent, fécondez-moi, engrossez-moi. Girouette offerte à vos quatre volontés, je veux me plier par toutes mes pores ouvertes, en mon âme assoiffée entrer. Ce n'est pas de chair dont je me veux gravide, mais des nuées de vos particules invisibles, de vos haleines moites, de vos odeurs imputrescibles, de voix restées chez vous inaudibles, de votre claquante lumière immarcessible. Soufflez un courant d'air, enlevez-moi d'ici, remplissez-moi d'ailleurs. Donnez à mon inspire de tangibles couleurs, faites endoyer mon corps, que sur vos rythmes doux ou endiablés, ils se mettent à danser. Vent, remplissez mon esprit, il est grand temps qu'avec vous je voyage. Et voici deux poèmes de René dont j'ai aimé à la fois la force et la simplicité, qui m'ont parlé directement, qui ont parlé à mon émotion. Et le second, qui est consacré au silence, me fascine, parce que le silence me fascine, et j'ai bien aimé la façon dont René en parlait. À la dérive, île, sentinelle lointaine battue par les flots, île sapée par les vagues, folles amazones, île née de la colère de la terre, île sculptée par la lame à l'assaut incessant, îles égarées sur les plaines émeraudes, noyées dans l'aigue marine, frangées d'écume, drapées dans l'immensité sévère. île démente, échevelée au souffle des vents déchaînés, île à l'accueil amène, au sourire complice, consolation des espoirs perdus à terre, désespoir perdu en mer, île. Elle largue les amarres, elle part à la dérive, elle. En silence. C'est en silence que le fleuve s'ouvre sur la pile du pont. Ni plainte, ni murmure ne s'échappe de sa mouvante blessure, sinon un tourbillon qui s'éloigne comme un chant profond, un cri déchiré, une douleur toujours renouvelée et tue à jamais. Sur la pile du pont, le fleuve s'ouvre en silence.
Merci à vous trois, donc Rosemary Racine, Claude Robert et René Curato, d'être venus pour participer à l'émission de La Poémière sur CFM. Ce que je retiens de votre écriture à tous les trois, c'est l'engagement, l'implication à un niveau qui diffère de ceux proposés par notre société. Pour Rosemary, ce qui me frappe, pour toi, donc, c'est la qualité de cette démarche d'intériorité et d'intégrité. Je te cite, « Le lendemain, le plus souvent, j'étais ressuscitée. » Et puis, je cite encore, « Oh, la fête, alors, renouveau dans mon corps. » Je sens là l'alliance sublime du corps et de l'esprit, une métamorphose totale et entière des deux, sans distance entre l'un et l'autre. Une merveilleuse retrouvaille avec soi-même que j'aimerais bien partager plus souvent et sans retenue. Pour toi, Claude, je retiens cette volonté de transmettre à tout prix, coûte que coûte, et de faire confiance à ceux qui sont là et qui t'écoutent. Et aussi ta capacité d'écoute, qui est immense. Je retiens pour toi beaucoup de phrases, mais enfin celle-ci. Nuit enfin apaisée après un jour de deuil. Je sens là un allègement qui provient aussi de la douleur vive qui a été ressentie avant et qui met en valeur cette paix intérieure qui autrement ne serait pas si juste. J'aime aussi ta question, Claude, comment rendre la clarté au monde ? C'est une belle question qui implique une dynamique que tu essayes de vivre et que tu montres par ce que tu fais, par tes actes. Car tes paroles sont des actes, mais aussi tes actes sont bien là pour renforcer cette parole que tu portes par la poésie. J'ai aussi envie de dire que ce que l'on ne remarque pas, le rôle du poète est de ne pas oublier. Et grâce à toi, Claude, tu aides à montrer l'invisible, ce que l'on ne voit pas et qui a aussi énormément d'importance. Et tu parles aussi de l'état du moi, de l'état du moi, de l'être au monde. Cette relation de l'individu au monde qui est essentielle et que tu transmets très bien, donc je te remercie. Merci aussi à toi René, pour ton écriture qui est à la fois olfactive, forte de mémoire et de présence. Je te cite « Quand le Guadalquivir roule lourd de souvenirs, quand de Ronda s'élève un chant déchirant, quand l'oranger libère sa fragrance, la plainte du bourdon rythme l'ombre danse. » À la lecture de ces mots, on s'impatiente de voir venir l'été. Et c'est ce poème, tu l'as intitulé Andalouse. Bien sûr, la mémoire de García Lorca se fait forte avec le Guadalquivir. Mais aussi l'évocation des jardins permet l'envol des pensées poétiques liées à la pression que le poète porte en lui pour créer des jardins animés et porteurs de plus de poésie dans un monde rapide, inodore et bruyant. Laissons bruire les mots, éther les mots, M-A-U-X, multiples, qui n'ont de sens que pour oublier le doux sens de la vie aimante et odorante le long des chemins de l'écriture. Une écriture de vivant, pour plus expérimenter la vie dans ses multiples facettes.
Chères auditrices et chers auditeurs, l'équipe d'animateurs de La Poémière vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne fin de soirée en compagnie de CFM. À très bientôt pour la prochaine émission qui fait vivre la poésie. Au revoir Isabelle.
Au revoir Fernand.
Au revoir Rosemary.
Au revoir Fernand.
Au revoir Isabelle. Au revoir Claude.
Au revoir Fernand.
Au revoir René.
Au revoir Isabelle. Oh. Au revoir Fernand.
Au revoir et à bientôt, j'espère, sur nos antennes. Vous pourrez vous écouter peut-être. À bientôt, au revoir.